Aujourd'hui, l'invention de la raison, la techné.
Quand on parle d'histoire, on suppose un commencement et parfois une fin. Une histoire de la raison suppose donc, elle aussi, un moment où la raison apparaît. Alors, question bizarre peut-être, François Châtelet, mais commençons par le commencement. La raison est-elle inhérente à la pensée ou bien a-t-elle été inventée? Et si oui, par qui et comment? Comment l'humanité a-t-elle fait apparaître, à un moment de son histoire, un genre culturel inconnu jusque-là, qui vient définir ce qu'on appelle la philosophie?
Pour comprendre comment elle a pu surgir comme genre culturel, il faut se référer à une situation. Et j'ai choisi, comme situation privilégiée, celle de la Grèce classique. Ce n'est pas du tout que je pense que toute philosophie est grecque. Heureusement, elle a réussi à s'évader de cette origine. Mais il est clair que dans la Grèce, il s'est produit pour des raisons tout à fait contingentes, des raisons historiques. Il s'est produit des rencontres telles que des hommes, des penseurs, ont fait apparaître un genre culturel nouveau, original, qui n'avait pas encore de correspondant à l'époque, l'ont fait apparaître dans un débat, dans un conflit, contre d'autres genres culturels qui, eux aussi, cherchaient la prééminence, et il se trouve également, alors pour des raisons qui sont contingentes, ça je ne saurais le dire, et on verra comment ça se passe par la suite, il se trouve que ce genre a eu un succès étonnant. Je me propose donc de découvrir ce sol premier de la cité grecque, plus précisément de la cité athénienne, de la démocratie athénienne, examiner ce sol pour voir dans quelles conditions cette idée a pu apparaître. Un petit point d'histoire d'abord, cela se situe aux environs du 5e siècle avant notre ère. La Grèce est alors partagée entre le pouvoir de multiples cités, certaines très petites, la commune de Montmartre, d'autres très grandes, à peu près la taille du département de Seine-et-Marne, la plus étendue d'entre elles, Sparte. Ces cités ont en commun des dieux, une culture, une langue. Ces cités sont rivales. Elles ne cessent de se battre, malgré la menace qui pèse constamment sur elles de l'invasion barbare. Ces cités ont créé des colonies à l'extérieur, des colonies qui très vite conquièrent leur indépendance. Et dans ces colonies souffle un esprit nouveau. Il a fallu de toutes pièces fabriquer des constitutions, il a fallu de toutes pièces construire des villes, c'est-à-dire élaborer un urbanisme. Et du coup, la pensée traditionnelle a été mise à rude épreuve. Dans ces cités coloniales, on s'est rendu compte que la tradition ne suffit pas. L'esprit de la colonie est remonté jusqu'au centre. Et voici qu'à partir du 6e siècle, les cités sont secouées par des demandes de renouveau. À Athènes, cette demande est particulièrement importante et des hommes inventent ce qu'on a appelé la démocratie. La démocratie se définit à l'époque essentiellement par l'égalité. La démocratie, ça signifie que tous les citoyens, quels qu'ils soient, quelle que soit leur fortune, quelle que soit leur origine, quelle que soit l'ancienneté de leur famille, tous les citoyens sont égaux devant la loi. Ils ont le même droit à intervenir devant les tribunaux et à prendre la parole dans les assemblées où on délibère du destin collectif.
Oui, alors on imagine bien l'impact d'un tel changement sur la culture traditionnelle.
En effet, dans la démocratie, la parole va bientôt devenir reine. Jusqu'alors, les décisions étaient prises par les aristocrates, par les familles nobles, et ces décisions étaient prises en général dans le secret. Les gens délibéraient dans le secret et venaient annoncer au public la décision prise pour l'ensemble de la collectivité. Du coup, dans ces cités traditionnelles, l'éducation est surtout une éducation morale et une éducation militaire. On accorde peu de prix à la parole. Je dirais que dans ces cités-là, on parle peu. Et quand on parle, eh bien, on récite les vieux poèmes traditionnels, ceux qui ponctuent les origines mystérieuses de la ville. Avec la cité démocratique, la parole intervient et va dominer, bien sûr, celui qui s'en trouve maître.
Alors, situons-nous donc à Athènes au début du 5e siècle, avant notre ère bien sûr. La ville a pris une importance considérable, les barbares venus de Perse se sont abattus par deux fois, en 490 et 480, et par deux fois, c'est cette jeune cité d'Athènes qui a mené le combat le plus résolu contre l'invasion. Jusqu'alors, il faut le dire, elle n'avait eu guère d'importance.
Lorsque les barbares sont définitivement repoussés, après la très célèbre bataille de Salamine, Athènes est devenue un pouvoir important sur lequel les yeux se fixent. Et la démocratie athénienne, du coup, se manifeste comme une espèce de modèle. On peut dire qu'à partir de là, le goût de la parole gagne la Grèce entière. Et en même temps que le goût de la parole, naissent des techniques ou des arts. Ici, j'ai presque envie de faire le pédant et d'employer le mot grec que l'on employait à l'époque, qui est le mot techné. Car dans techné, il y a à la fois l'idée d'une technique, d'un savoir-faire appliqué, mais il y a aussi l'idée de l'art, l'idée d'une invention, l'idée d'un produit original. Et il m'arrivera certainement d'avoir à employer ce mot pour bien marquer ces deux aspects à la fois de pratique et d'invention individuelle. Oui, ce développement de la parole entraîne la naissance de techniques particulières qui sont les techniques de ce qu'on va appeler plus tard la rhétorique. Pour avoir sa chance dans une pareille cité, il faut savoir parler. Il faut savoir convaincre. Et, comme il est arrivé maintes fois dans d'autres civilisations, l'apparition d'une techné engendre la naissance d'une profession. La démocratie athénienne a besoin d'instituteurs. Elle a besoin de gens qui sont capables d'apprendre aux autres à bien parler, d'apprendre aux autres à manier habilement les arguments, de façon à convaincre, soit dans les tribunaux qui traitent des affaires privées, soit dans les assemblées qui traitent des affaires publiques, à convaincre que telle position est meilleure que telle autre. C'est Platon qui nous parle, Platon qui vient un peu après, qui vient à la fin du siècle. C'est Platon qui nous parle de ces instituteurs de la démocratie. Et il les appelle d'un terme qui a pris à cause de lui une nuance péjorative. Il les appelle des sophistes.
Oui, il est vrai que pour nous aujourd'hui, cela désigne plutôt un personnage de mauvais aloi qui utilise des arguties douteuses pour éviter de traiter sérieusement les problèmes.
En fait, étymologiquement, sophiste, ça veut simplement dire intellectuel qui sait parler. Intellectuel qui a la maîtrise du langage. Il y a donc une génération de sophistes, des gens qui viennent d'ailleurs de l'extérieur. Platon dit d'eux que ce sont des gens qui ont l'accent du midi. Ça fait penser un peu à ces grands ténors de la Troisième République qui venaient tous, avant la Première Guerre mondiale, qui venaient tous du midi. Eh bien, ce sont des gens au langage sonore, dit Platon, qui s'installent à Athènes et qui ouvrent des écoles d'éloquence qui sont en même temps, et j'insiste bien sur ce fait, qui sont en même temps des écoles de politique. Donc, après la Deuxième Guerre Médique, lorsqu'on est à peu près tranquille Du côté des barbares, Athènes devient une cité puissante qui se constitue un empire, et c'est une cité qui renforce son régime démocratique.
Il y a d'ailleurs un nom qui reste attaché à cette période, c'est celui de Périclès. On parle du siècle de Périclès.
Je rappellerai ici, pour l'ironie de l'histoire, que ce siècle a duré 30 ans. Et que on a raison quand même de l'appeler un siècle, parce qu'il s'est passé tellement de choses en 30 ans que, très curieusement, à cette époque où il y avait une certaine lenteur, s'est produit une véritable accélération de l'histoire. Dans cette Athènes péricléenne, il y a en fait deux forces en présence. Il y a le maintien de la vieille tradition religieuse. Je laisse de côté les aspects politiques pour ne garder que les aspects culturels. Un certain nombre d'aristocrates qui aiment Athènes pensent que la ville s'engage dans une voie dangereuse, qu'elle se livre à une débauche de dépenses, qu'elle se livre également à un impérialisme qui est quelquefois fort cruel, qu'elle s'adonne d'une manière trop éhontée au commerce et à la recherche du profit. Il y a effectivement dans cette démocratie athénienne un goût de la puissance pour la puissance qui est un peu inquiétant. Cette tradition est quelquefois représentée parmi les grands poètes tragiques. D'une certaine manière, on peut dire que Eschyle, tout en modernisant la tradition, maintient le flambeau de la vieille conception du monde où les dieux sont omniprésents et où il faut prendre garde à ne pas les choquer. Et contre cette tradition se développe donc la pensée sophistique, la pensée de ces hommes que nous appellerions aujourd'hui, mais ce serait évidemment un anachronisme, que nous appellerions volontiers des progressistes, à ce détail près que les Grecs n'ont pas l'idée de progrès et qu'ils pensent que l'humanité repasse toujours par le même cycle. C'est donc un progressisme, mais sur une très courte période. C'est un progressisme qui s'abolit lui-même. Nous aurons l'occasion d'ailleurs de revenir sur cette problématique avec Aristote. Entre ces deux forces qui se combattent, une tradition vieillissante et glorieuse qui évidemment ne peut pas faire face aux demandes de la réalité et aux demandes de la société, et une nouveauté qui est peut-être un peu trop soumise à cette demande et qui satisfait trop facilement, entre les deux se manifeste un personnage étrange, c'est Socrate.
Sachez-le bien, en effet, nul de vous ne connaît cet homme-là, mais moi, je vais vous le dévoiler. Socrate, c'est un fait que vous constatez, est à l'égard des beaux garçons en amoureuse disposition. Il tourne autour d'eux, il en est transporté. C'est un autre fait encore qu'il ignore toute chose, qu'il ne sait rien. C'est un air qu'il se donne. Ses façons ne sont-elles pas d'un silène? Tout ce qu'il y a de plus, ma parole. Cela, en effet, c'est l'enveloppe extérieure du personnage, comme est le silène sculpté. Mais à l'intérieur, une fois qu'on l'a ouvert, de quelle quantité de sagesse il est plein? Vous le figurez-vous, camarade buveur? Sachez-le. On peut être beau, cela ne l'intéresse en rien. Il fait fi de cela à un degré totalement inimaginable. On peut être riche, on peut posséder tel autre avantage envié de la multitude, tous ses biens, à son jugement, ne sont d'aucun prix. Et nous ne lui sommes rien. Oui, c'est à vous que je m'adresse. Or, à faire ainsi, dans ses relations avec autrui, le naïf et le plaisantin, il passe sa vie entière. Mais quand il est sérieux et que le silène a été ouvert, y a-t-il quelqu'un qui y ait vu les figurines de divinités qui sont à l'intérieur? Je l'ignore. Mais à moi, déjà, il m'est arrivé de les voir. Et je les ai trouvées à tel point divines et toutes d'or, à tel point superbes et merveilleuses, que je n'avais plus, en bref, qu'à faire tout ce que m'ordonnerait Socrate. Platon, œuvre complète.
Mais Socrate, à sa manière, est un sophiste. Seulement, bien sûr, contrairement à ses collègues qui étaient habiles dans l'art de parler, lui n'ouvre pas école. Il n'ouvre pas école et il ne demande pas non plus d'argent à ses interlocuteurs.
Il prétend parler au nom de son daimon, de son génie personnel. Il prétend parler parce que ça lui fait plaisir et qu'il a trop de peine lorsqu'il voit ses concitoyens se laisser aller à l'immoralité et au goût du luxe. Socrate se promène dans la ville. Il accomplit d'une manière très sérieuse, mais sans excès, son métier de citoyen. Il combat lorsqu'il faut combattre, dans la ligne armée des hoplites athéniens. Il siège dans les tribunaux lorsqu'il faut siéger dans les tribunaux. Mais il n'a pas de métier. Son métier, c'est de parler avec ses concitoyens. Il vit de très peu, il n'a pas besoin d'argent. Il parle avec ses concitoyens. Et il se dresse à la fois contre la tradition et contre l'état d'esprit sophistique. Il développe contre l'une et contre l'autre une critique d'une violence extrême. Il montre à tous ces professionnels qui occupent une position importante dans la configuration sociale, il leur montre qu'ils croient savoir et qu'ils ne savent rien. À cet égard, je crois, pour comprendre le personnage de Socrate, il vaut mieux évoquer un des dialogues que Platon a rapporté le concernant. Le dialogue auquel je pense est un dialogue simple. Il s'appelle le Lachès. Lachès, c'est un vieux général, bien connu des Athéniens, qui s'est illustré dans des batailles célèbres. Le dialogue commence, c'est une comédie, un dialogue socratique, dans le langage de Platon. C'est une véritable pièce de théâtre. Cette pièce commence par la demande de deux pères de famille qui viennent interroger Lachès, et Nicias, qui est un autre stratège athénien, mais lui beaucoup plus jeune, et qui est en même temps un homme politique, ce que n'est pas du tout Lachès. Les deux pères de famille viennent interroger ces deux spécialistes pour savoir s'il faut faire donner des leçons d'art militaire à leurs enfants. D'art militaire et d'escrime à leurs enfants. Et ils ont demandé à Socrate de bien vouloir se joindre à cette assemblée pour tenter de répondre à cette question. Les deux spécialistes, Lachès et Nicias, interviennent. Lachès disant que c'est complètement inutile de faire donner des leçons de cet ordre et que l'art militaire s'apprend sur le terrain. Nicias disant au contraire que c'est tout à fait utile et que lui s'est trouvé très bien des leçons qu'il a reçues. Comme il y a une voix pour, une voix contre, et que ses pères de famille sont habitués à la démocratie, il se tourne vers le troisième larron, qui est Socrate, en disant « Bon, bah, tu vas départager, tu vas dire pour qui tu votes, et nous saurons s'il faut ou non donner des leçons aux enfants. » Et Socrate dit « Ah non, je suis désolé, je ne procède pas comme ça. » Je ne peux pas répondre à la question qui vient d'être posée aussi directement, car je ne ferai que donner mon avis. Or, mon avis, en tant que subjectivité, ça n'a aucune espèce d'importance. Non. Je voudrais essayer de comprendre ce qu'ont dit Lachès et Nicias. Et il leur demande la permission de les interroger. Pourquoi as-tu dit ceci? Pourquoi as-tu pris tel exemple? Pourquoi, à ce moment-là, as-tu changé de ton? Enfin, il commence une enquête très subtile. Et il apparaît au bout d'un certain temps pour tous les interlocuteurs, et par conséquent pour nous, lecteurs, qui sommes en sorte un interlocuteur supérieur, que Lachès et Nicias ne savaient pas ce qu'ils disaient. Qu'ils parlaient par pur mécanisme. Qu'ils avaient une idée préconçue et qu'à partir de là, ils ont fabriqué leur argumentation, mais que cette argumentation n'est absolument pas probante. Alors les deux pères de famille se retournent vers Socrate et disent, alors comment il faut faire? Et c'est là que Socrate se met sur le chemin de l'invention de la philosophie. Il dit, voilà. Se poser la question, faut-il faire donner des leçons d'art militaire à des enfants? Ce n'est pas une bonne question. Il faut d'abord savoir à quoi ça sert de faire donner des leçons à des enfants. Et des leçons d'art militaire en particulier. Qu'est-ce que l'on veut cultiver? Alors, les pères de famille, on veut que nos enfants soient capable de se défendre sur le terrain, vaincre les ennemis, honorer notre nom en se battant comme il faut, et rester en vie. Ah, très bien, c'est une très bonne réponse, dit Socrate. Donc, l'art militaire a pour fin l'acquisition de la vertu militaire. Alors, pour répondre à la question, il faut bien sûr savoir ce que c'est que la vertu militaire. Sinon, on répondra, comme l'on fait tout à l'heure, Nicias et Laques, on répondra à côté du problème. On donnera son avis, mais on ne pourra pas donner une réponse convaincante. Vous avez déjà deviné ici que Socrate a inventé quelque chose de nouveau, que bien longtemps après, 24 siècles après, on va appeler le concept.
Oui, c'est-à-dire pour résoudre un problème, pour répondre à une question, il faut savoir ce que contient cette question. Il faut repérer l'idée qui s'y trouve, en élaborer la représentation. Et en termes modernes, cela s'appelle construire le concept.
Et à partir de là, c'est en somme le deuxième acte de la comédie. Socrate prend la direction des opérations et interroge Nicias, Laques, pour savoir ce qu'est la vertu militaire. Et il apparaît, en ce cas aussi, que aucun des deux généraux n'est capable de répondre à cette question. Socrate n'a aucun mal, devant les démonstrations qui sont données par l'un et par l'autre, à montrer que ce qu'ils disent n'a pas de sens et ne résiste pas à l'argumentation. Alors, nous autres lecteurs, nous voyons arriver la fin du dialogue, et on se dit, alors, on va avoir la réponse. Ouais, pas du tout. Et c'est là toute l'habileté machiavélique de Socrate, c'est qu'il ne répond pas. Devant la demande des deux pères de famille qui insistent, il répond. Ah non, moi j'ai dit qu'il fallait, pour répondre à la question posée, savoir ce qu'est la vertu militaire, mais je n'ai jamais dit que je le savais. Maintenant, si vous voulez, nous pourrons nous retrouver demain à tel endroit, à telle heure. Et le dialogue se termine de cette manière.
On peut comprendre ce qui est arrivé à Socrate. Il s'est rendu insupportable. En procédant de cette manière, en refusant de répondre, en agaçant tout le monde par ses raisonnements corrosifs qui détruisent les argumentations, qui ébranlent les certitudes sur lesquelles la cité athénienne s'est construite, eh bien, en procédant ainsi, il devait s'attirer la haine de tous.
D'ailleurs, Platon, dans un admirable dialogue qui s'appelle l'Apologie de Socrate, et qui présente la défense de Socrate lorsqu'il a été accusé d'impiété devant le tribunal, Platon évoque trois accusateurs. Et il est significatif que ces trois accusateurs représentent chacun une des professions importantes à Athènes. L'un est un rhéteur politicien, l'autre est un devin, la divination joue un très grand rôle à l'époque, et étant une forme de ce que nous appellerions aujourd'hui propagande, et le troisième étant un homme de métier, ce que nous appellerions aujourd'hui un ingénieur. Cette cité athénienne, en effet, ne s'est pas contentée d'avoir des sophistes et des maîtres de la parole. Elle a produit aussi des hommes politiques de grande classe. Elle a produit des hommes de métier qui ont construit une flotte remarquable et qui ont accompli des progrès technologiques non négligeables. Elle a produit aussi, il ne figure pas dans le dialogue platonicien, des historiens. C'est là un des problèmes d'ailleurs que nous aurons à reposer concernant le statut de la philosophie.
Bon, mais en fait, à Athènes, tout se dresse contre ce personnage socratique qui ruine les divinités civiques et de cette façon se présente comme un impie.
Son intention, il le montre bien dans cette apologie, comme il le montrera aussi, selon Platon, dans le Criton, est de sauver la cité et non pas du tout de la condamner, non pas du tout de la ruiner. Mais, à première vue, on pense que c'est là son objectif. Socrate est traîné devant les tribunaux, il refuse de se défendre, il est condamné à mort, on lui propose de s'échapper, car les Athéniens n'aimaient pas beaucoup condamner à mort leurs concitoyens. Cette condamnation était une condamnation formelle, et les magistrats qui l'avaient condamné espérait qu'il s'échapperait. Socrate refuse de s'échapper, il boit la ciguë, il meurt. Et de son enseignement et de cette mort exemplaire va naître la philosophie. Va naître la philosophie platonicienne, mais il se trouve que Platon donne de la philosophie une définition qui reste au centre de l'exercice de la philosophie jusqu'à aujourd'hui, quand bien même elle serait fortement contestée. Même si l'on est foncièrement anti-platonicien et que l'on est philosophe, c'est toujours dans une perspective qui renvoie à l'analyse platonicienne. Je dirais volontiers que tout se passe comme si Platon avait voulu être lui-même Socrate, mais avait décidé, cette fois, non pas seulement de poser des questions, mais de donner des réponses afin de rester vivant. Platon porte en quelque sorte si profondément le remords de la condamnation et de la disparition de Socrate, qu'il se fait l'administrateur du message socratique pour que la cité change et pour que des hommes comme Socrate puissent rester en vie. Platon se donne pour tâche la réforme complète de l'organisation civique pour que par la suite, éventuellement, d'autres hommes qui auraient le même génie personnel que Socrate, le même daimon, puissent s'exprimer et rester en vie. C'est là ce que Platon appelle faire vivre l'homme avec des couleurs divines, c'est-à-dire hors de l'immoralité et dans la transparence de la vérité. L'œuvre platonicienne se construit essentiellement contre les sophistes. S'il attaque la tradition, c'est de manière modérée et parce qu'il considère que la tradition n'est plus dangereuse, il se retient de l'attaquer avec vigueur. L'ennemi numéro un, c'est cette sophistique qui, selon lui, a énervé les Athéniens au sens propre, qui les a amollis et qui les a jetés dans des entreprises douteuses, tant sur le plan culturel que sur le plan de la politique extérieure.
Mais pourtant, la pensée platonicienne a le même point de départ que la sophistique, c'est-à-dire la parole. C'est bien cela que Platon hérite de Socrate.
Pour lutter contre la parole mensongère, on ne dispose que de l'argument de la parole, à moins de se livrer à la violence, mais c'est là, précisément, ce que refuse la pensée platonicienne. Lorsque Platon fonde l'Académie, cette affaire se situe en 384 avant notre ère. Je rappelle que l'Académie, c'est une école onéreuse probablement, qui s'est ouverte dans les jardins d'un citoyen appelé Académos, et où les familles grecques envoyaient volontiers leurs enfants pour recevoir d'abord des leçons de mathématiques, des leçons de dialectique, et aussi peut-être l'enseignement secret de Platon, qui a pour nous, hélas, complètement disparu. Lorsque Platon ouvre cette école, il procède à une réfutation systématique de la pensée des maîtres de la démocratie. Et du même coup, il fait une critique extrêmement violente de cette pensée démocratique. Il montre qu'il n'y a aucune raison que la majorité ait raison. Il montre que le nombre des voix ne fait pas la vérité. Il montre que ce n'est pas parce qu'on sait construire un bateau ou fabriquer des chaussures que l'on est capable de gouverner la cité. Et il se propose, à l'aide de la seule parole, de construire un discours, un texte, qui serait juge de toute parole.
Ici, peut-être, commence à s'esquisser une définition de la philosophie. Et comment la chose se passe-t-elle ? Eh bien, nous le verrons demain dans la deuxième partie de cette invention de la raison, en découvrant le logos. Je vous rappelle enfin que Une histoire de la raison, c'est aussi un livre publié au Seuil dans la collection Point Science.